franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan pour la Revue de Presse. L'attaque terroriste hier soir d'abord sur les Champs-Élysées à la une.
À la une de la presse française évidemment, mais aussi de toute la presse internationale avec la même photo. L'avenue des Champs-Élysées fermée par une voiture de police. Du britannique The Guardian à l'espagnol El País, de Die Welt en Allemagne, à Sud-Ouest, la Provence, le Parisien ou le Figaro en France. Le quotidien suisse Le Temps titre sur la présidentielle française à l'heure terroriste. La terreur de Daesh sur le vote, dit La République. Tous les journaux relèvent évidemment la concordance entre un lieu symbolique, l'avenue iconique de Paris, écrit le New York Times, la cible des policiers et le moment de cette attaque à 3 jours de la présidentielle. Dans le Figaro, l'avocat spécialiste du terrorisme, Thierry de Montbrial, explique que la période actuelle constitue évidemment un pic d'exposition pour les islamistes, une occasion unique de peser sur la vie politique française. Le fait que cet attentat ait été revendiqué aussi rapidement par le groupe État islamique souligne un spécialiste du terrorisme dans le New York Times, à quel point il entend peser sur l'élection française. C'est aussi un signe adressé, dit-il, à tous ses combattants et à ceux qu'il espère recruter, une façon de leur montrer à quel point il est encore puissant. Tous les journaux s'interrogent sur l'impact que pourrait avoir un tel événement sur le vote de dimanche. À qui profitera le crime, en quelque sorte? Distiller la peur pour voir s'installer la haine et inversement, voilà le but recherché, explique Christophe Bonnefoy du journal de la Haute-Marne. Quand Bruno Dive de Sud-Ouest continue de croire que la meilleure réponse à apporter aux terroristes et aux djihadistes, c'est encore et toujours l'unité nationale, eh bien le New York Times se demande, lui, si cette attaque ne constitue pas tout de même un moment de bascule en faveur des candidats qui jusque-là apparaissaient comme les plus durs, dit-il, avec le terrorisme, et le journal de citer nommément Marine Le Pen et François Fillon. Dans sa chronique mise en ligne dans la matinale du Monde, Françoise Fressoz insiste, tout ce qui avait été refoulé ces dernières semaines ressurgit. La menace islamiste, le danger terroriste, le dévouement et l'épuisement des services de l'État, mais aussi les failles du dispositif. D'un coup, écrit-elle, la prime ne va plus à l'aventure, mais au régalien, à la force, à la protection. Conclusion de Clément Pétreau ce matin sur le site du Point. La campagne se retrouve plongée dans une incertitude encore plus insondable.
Dernier jour de campagne, vous l'avez dit, bilan dans la presse ce matin.
L'isoloir, tout va se jouer par définition dimanche dans l'isoloir. Dans les Échos, Roger Paul-Droit revient sur la symbolique de ce petit mètre carré dans lequel nous sommes confinés, 60 secondes au plus, rideau tiré, cet espace et ce moment où les résolus sont face à leur confirmation, les hésitants face à leur décision. De cet isoloir, il faut voir une mise en scène du fort intérieur, du tribunal de la conscience, la forteresse de l'âme, disait Marc Aurel, nous explique Roger Paul-Droit. Plus d'images, plus de sons, plus de sollicitations extérieures, un espace clos où chacun est supposé se retrouver face à sa propre pensée, radicalement seul, libre de prendre sa décision en toute autonomie. Bon, en tout cas, c'est fini dans quelques heures, une fois qu'on sera passé évidemment dans l'isoloir. Eh bien, votez maintenant, nous interpelle Cécile Cornudet, toujours dans les Échos, qui fait comme d'autres le bilan de cette campagne de premier tour. Quand les feux de la campagne s'éteignent, que reste-t-il? 4 candidats susceptibles de se qualifier, 4 offres politiques que tout oppose. Une fois toutes les combinaisons du second tour évaluées, la véritable photo, dit-elle, apparaît dans le puzzle de cette curieuse campagne. Une partie de la France veut avancer, une autre se sent reléguée. Une partie espère, une autre désespère. Une partie regarde devant, l'autre derrière. Beaucoup veulent tout détruire sans savoir quoi reconstruire. L'image est multiple, mouvante. Espérons que le président l'aura toujours en tête, conclut-elle. Ils ont tout à perdre et plus encore, Libération a choisi de façon assez déplaisante, faut bien le dire, de se consacrer à l'après, anticipant déjà l'échec des uns et des autres et leurs répercussions.
Des perdants,
oui. Et ben voilà, on parle déjà des perdants. En gros, je vous la fais courte, le PS aura la peau de Benoît Hamon, les Républicains celle de François Fillon, Mélenchon, malgré son âge, pourrait bien décider de poursuivre le combat, tellement la France insoumise n'existe qu'autour de sa seule personne. Et vous, Emmanuel Macron, serez dépendant, écrit Nathalie Rollin, de l'attitude des réformateurs socialistes, celle de Manuel Valls en particulier, pour créer ou non une maison commune des progressistes. En attendant de gagner ou de perdre, dernier soutien engrangé par les uns et les autres. Après Valéry Giscard d'Estaing dans le Point et Alain de Delon par lettre pour soutenir François Fillon. Dominique de Villepin signe pour vous, Emmanuel Macron. Il le dit ce matin dans Aujourd'hui en France, le Parisien. Il y aura enfin une nouvelle voie que veut ouvrir Emmanuel Macron, dit-il, celle du rassemblement. Contre l'esprit de querelle, faisons le choix de la volonté.
Pour finir, Hélène, un dernier mot sur les médias et la campagne présidentielle.
Des médias largement mis en accusation par certains candidats pendant cette campagne. Mais les médias faussent-ils l'élection ? S'interroge l'hebdo Le 1 cette semaine. Réponse hétéroclite, mais charge assez lourde quand même. Le romancier Patrick Besson étrit les journalistes politiques, accusés de passer leur temps à inspecter les comptes bancaires des candidats à défaut de discuter des idées. Bref, pour lui, les médias ne sont responsables de rien parce qu'ils sont carrément nuls. Laurent Greiselmeur se permet quand même de les défendre un petit peu. Ceux qui ont la nostalgie de la presse d'autrefois, écrit-il, devraient aller consulter les collections. Quand l'esprit partisan régnait en maître, quand on écoutait ou regardait sur l'ORTF la voix de la France, aujourd'hui, la polyphonie des médias a succédé à la voix de son maître, se réjouit-il. Mais de quels médias parle-t-on ? Dans Libération, le journaliste Pierre Aski revient sur une étude à laquelle il a participé, sur les partages d'Internet pendant la campagne électorale. Étude qui a révélé la polarisation croissante entre les sources d'informations. D'un côté, les médias professionnels et l'économie classique du web. De l'autre, la galaxie de sites et de plateformes fondées en opposition au système. Opérant avec une autre échelle de valeur et de respect des faits et de l'éthique, un quart des liens partagés par les internautes appartient à cette catégorie hors système, où se mélangent informations non vérifiées et véritables désinformations. Un constat qui pose de sérieux défis à toutes nos démocraties, dit Aski. Comment rebâtir ce socle de confiance sans lequel aucun système démocratique ne peut espérer durer et prospérer ? Responsabilité des médias et des politiques, donc. Pourtant, parfois si prompt à les dénoncer, ces médias, ce n'est pas la moindre des questions qui a été soulevée pendant cette campagne présidentielle.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse.